Bonjour à chacun, à chacune. J'étais réjoui, comment vous dire, ce matin, en entendant, je ne sais pas, c'était peut-être un peu particulier pour moi, en entendant les chants qui ont été choisis, en entendant les prières qui sont montées. Je vais dire une chose, il me semble que le taux de louanges et de prières qui proclament la grandeur, la majesté, la puissance, la miséricorde, l'amour, la grâce du Seigneur Jésus-Christ est en augmentation. Et je vais prier avant même de donner ce message pour que les paroles qui ont été prononcées par les uns ou les autres, nous avons parlé de l'autorité aussi, que cela soit dans les vies. Seigneur, viens devant toi ce matin, au milieu de mes frères, Seigneur, et tu as entendu les chants, les louanges à ton nom, les paroles qui ont été prononcées, Seigneur. Elle proclame que tu es Dieu. Elle proclame que tu règnes au-dessus du cercle de la terre. Elle proclame que tu es le miséricordieux. Elle proclame, nous a rappelé, Seigneur, la parole prophétique, Seigneur, de ce que tu es venu accomplir. Toi, par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Alors, Seigneur, je te prie que tout ce qui a été prononcé par les bouches, Seigneur, au Père, je te prie, Seigneur, que mes frères et mes sœurs et moi-même soyons liés parce que nous avons dit, parce que ce qui a été dit, Seigneur, est la vérité et la gloire de ton nom. Et que l'autorité, Seigneur, qui est la tienne, opère maintenant dans les vies. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite, et je vous donnerai le thème de mon message, mais je vous invite de suite à lire dans la première aux Corinthiens, le chapitre premier. Nous allons lire ensemble la totalité de ce chapitre. Premier épître de Paul aux Corinthiens, donc chapitre 1er. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, verset 30, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Vous avez peut-être observé lors de quand il y a une conférence de presse du président de la République ou d'une haute personnalité d'un grand groupe mondial qui commande ses résultats, tout de suite après, les journalistes font un commentaire. Et souvent, ce qui relève, c'est le nombre de fois le mot majeur qui a été prononcé dans l'intervention. Alors, je fais pareil ce matin et j'observe que Jésus-Christ, le beau nom de Jésus-Christ est prononcé 4 fois dans les salutations, 10 fois dans les 10 premiers versets et 17 fois au total. Et cela culmine, je n'ai pas lu tous les épîtres aux Corinthiens, mais au chapitre 2, lorsque Paul déclare « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » À votre avis, qu'est-ce qui se passe là? C'est un peu vrai dans toutes les épîtres, mais particulièrement dans celle-là. Le contexte de cette exhortation musclée, je ne vous ai pas tout lu l'épître aux Corinthiens, mais l'exhortation est musclée. Il va commencer au chapitre 2 en disant « Je viens vous parler, mais je ne peux pas vous parler comme des hommes faits, je viens vous parler comme des enfants. » Et puis il va dire après « Puisque vous avez des disputes, etc., vous marchez selon la chair. » Enfin, c'est assez musclé quand même. Il faut dire qu'il y a sans doute de quoi, il y a de quoi. Les Corinthiens, comme c'est dit dans l'introduction, ont reçu, lors de l'annonce de l'Évangile, tous les dons auxquels nous aspirons et auxquels Paul va dire, d'ailleurs dans Corinthiens aussi, aspirez à tous les dons. Aspirez au meilleur, je vais vous montrer le meilleur chemin, l'amour, etc. Donc, il ne dit pas du tout que c'est mal d'avoir les dons, mais il est triste. Au démarrage de cet épître, son cœur est brisé. Parce qu'il y a tous les dons et pourtant subsistent des problèmes dont il dira que même chez les païens, il n'y en a pas des comme ça. C'est au point que l'un couche avec sa belle-mère. Dispute, mise en avant de tel ou tel serviteur, esprit de parti. Paul reprend ses frères et leur rappelle d'où ils viennent. Et la conclusion va dresser la personne de Jésus-Christ, rappelant « Il a été fait pour nous ». Il a été fait pour nous. Réfléchissons, on va réfléchir un peu là-dessus. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Paul ne va pas entrer dans les polémiques, mais présente tout à nouveau Jésus-Christ. Et c'est le désir de mon cœur ce matin. Nous méditerons sur juste une partie de ce verset. Il a été fait pour nous. Sagesse. Il a été fait pour nous. Par Dieu, nous sommes en Jésus-Christ qui a été fait pour nous. Réalisons cela. Jésus-Christ a été fait pour nous. Celui par qui et pour qui sont toutes choses. Celui sur les épaules duquel repose la domination qu'on appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix dans Ésaïe 9. Celui qui était au commencement avec le Père. Lui, la parole qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Lui dont le nom est la parole de Dieu dans l'Apocalypse. c'est-à-dire celui qui ordonne, commande au nom du Dieu Tout-Puissant, lui qui ne fait qu'un avec le Père, lui dont l'œuvre a été agréée par le Dieu Tout-Puissant, qui l'appelle mon Fils bien-aimé, il a été fait pour nous. Il a été fait pour nous toutes ces choses. Dans Colossiens, il dira, nous avons tout en lui. Il a été fait pour nous. Il est la sagesse, il est juste, il est saint, il est le Tout-Puissant qui n'a pas besoin d'être sauvé, mais il a été fait pour nous. Il est né parmi nous, devenant parmi nous et pour nous tout cela. Le terme qui est utilisé, c'est ça, c'est il est venu, il est né, il est devenu, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi comme une transformation de lui-même. Comprenons que cette expression « il a été fait pour nous » indique en fait, c'est ça, il est né, il est venu. Et renvoie clairement à ce verset, ces versets de Philippiens 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme. Il est devenu serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, ça a été redit ce matin, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Oui, il a été fait pour nous. Il a librement, par une obéissance d'amour envers son Père, fruit d'une communion sans faille, renoncé à son état céleste pour s'incarner et vivre la condition d'homme en toute chose, sauf le péché. Il a été fait pour nous. Voilà ce que ça veut dire. Nous contemplons. Et ce matin, pour moi, c'est ça, c'est contempler. Peut-être certains vont dire, il n'est pas très pratique. Je voudrais vraiment que l'on dresse. Parce que je crois que la solution à tous nos problèmes, c'est que la personne de Jésus-Christ se dresse devant nous, dans nos cœurs. Alors aujourd'hui, je ne prendrai que ce mot. Peut-être plus tard, je prendrai les autres. Il a été fait sagesse, justice, sanctification, rédemption. Il a été fait sagesse. C'est un sujet ample. Peut-être le cernerai-je mal. Eh bien, je vais simplement partager quelques pensées avec vous là-dessus. La définition du mot sagesse, elle est large déjà. J'ai noté que ça pouvait être l'habileté dans un art provenant de la connaissance, de l'intelligence et de l'expérience. C'est une combinaison intéressante. Habileté dans un art provenant de la connaissance, de l'intelligence et de l'expérience. Il y a à la fois de la théorie, l'intelligence n'est pas abandonnée, mais mise en pratique. Et ça me fait tout de suite penser à celui qui bâtit sur le sable, celui qui bâtit sur le roc. On peut avoir plein de connaissances, mais sans mise en pratique. C'est folie. À la tempête, tout sautera. Il y a un autre sens qui est la sagesse résultant de l'étude. Et là, c'est plutôt un côté philosophique. On va étudier, à partir de la connaissance, nous allons élaborer peut-être des hypothèses sur le sens de la vie. Une sagesse sans doute plus humaine. Et puis, cette sagesse, elle peut être pervertie, tordue. Elle devient, on utilise l'intelligence, c'est ce qu'on a compris, pour faire preuve d'adresse. Mais vous voyez mon geste, c'est une sagesse, une adresse qui détourne, qui contourne, qui peut même mener à la ruse. Nous trouvons dans les proverbes de Salomon, alors beaucoup de livres parlent de la sagesse. Il y a les proverbes de Salomon, nous allons lire quelques passages. Il y a aussi dans Job, on trouve beaucoup de choses sur la sagesse, beaucoup de réflexions. Dans l'Ecclésiaste aussi. Mais les proverbes, le livre des proverbes commence ainsi. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. C'est intéressant. C'est intéressant ensuite pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage, celui qui est déjà sage, écoute, il augmentera son savoir, son habileté, son expérience. Et celui qui est intelligent, qu'il écoute aussi. il acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles de sages, des sages et de leurs sentences. J'aurais examiné plusieurs aspects de la sagesse quand on dit Jésus-Christ est sagesse. Sagesse et intelligence de la création originelle. Arrêtons-nous un instant. La création avant la chute, ordonnancement, harmonie, ordre, vie abondante, créée avec mission donnée à l'homme de cultiver, garder, d'être fécond, de croître, de multiplier, d'assujettir toute la création sous l'autorité du Créateur. Nous ne pouvons qu'être émerveillés devant cette intelligence, cette magnificence et en même temps cet équilibre. Oui, la sagesse était présente à la création du monde. En permanence, nous voyons dans tous les textes que la sagesse est liée à l'intelligence, mais elle est aussi plus que cela. Il y a un équilibre, il y a une intention. Le psalmiste proclame souvent ces merveilles, le psaume 92, verset 6, « Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y point point garde. » Ésaïe 55, verset 8, « Car mes pensées, on connaît bien ce verset, ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Le psaume 139, au verset 17, « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. » Notre Seigneur Jésus-Christ, la parole vivante, la parole par qui fut tout créé, était à la création. Au commencement, Dieu... L'esprit planait au-dessus des yeux, des eaux. Dieu dit, Jésus-Christ, la parole, intervient. Tout a été créé par lui et pour lui, dans une sagesse et un équilibre extraordinaire. Nous savons que cette sagesse, tout cet équilibre a été rompu par la chute. Mais la sagesse de Dieu se manifeste encore dans le plan du salut pour l'homme. Et je trouve c'est résumé en une phrase dans l'Éphésiens 1, verset 7. « En lui, Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Il a répandu sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Quand on s'arrête, ce matin, je voulais simplement m'arrêter, je ne vous dis pas des choses extraordinaires, mais arrêtons-nous, réalisons, nous qui avons reçu cette vie éternelle, ça a été dit dans les prières. C'est quoi la vie éternelle ? Nous n'avons plus peur de la mort. Il y a cette présence continuelle de Dieu au milieu de nos pensées. Notre esprit est reconnecté à l'éternel. Quelle sagesse du plan de rédemption ! Après la révolte de l'homme, Dieu pourvoit un plan extraordinaire qui va aboutir à Christ en nous, l'espérance de la gloire, qui va aboutir à « Il a été fait pour nous, sagesse ». C'est-à-dire que c'est intégré. Ce n'est pas un concept extérieur, c'est intégré. Il donne les moyens de vivre ces choses. Simplement, arrêtons-nous. Je vais aller plus loin sur cette parole. Vous voyez, aujourd'hui, je leur dirai tout à l'heure, il y en a plein de paroles, ça débite de partout, ça... Je ne veux pas employer de termes vulgaires, ça dégobille de partout. Des paroles. Et regardez celle-là, sa puissance. Mais pour cela, il faut s'arrêter pour écouter la sagesse. La sagesse, on ne peut pas l'avoir si on ne s'arrête pas pour écouter. Il va leur dire plus tard. Sagesse, oui, du plan du salut, qui a été révélée progressivement tout au long de l'histoire. Dès la chute, sagesse de Dieu qui remplace la couverture fabriquée par l'homme pour se cacher par une peau de bête et qui annonce le sacrifice. Lors du déluge avec l'arche, la sagesse du monde, les hommes mangeaient, buvaient et se mariaient. La parole prophétique s'élève. La parole de la vraie sagesse, jugée comme folie, mais qui annonce entrée, qui annonce le salut. Pendant des années, Noé va bâtir l'arche, prêcher. On va le prendre pour un fou, alors que c'était la parole de sagesse de Dieu qu'il annonçait. Lors de la sortie d'Égypte, par le tabernacle aussi et le sacerdoce lévitique, sagesse de Dieu qui nous prépare, qui nous annonce le sacrifice de Christ, par la disposition même du tabernacle, par le rituel, les ordonnances charnelles qui amènent à sacrifier ces animaux, le sang coule et ça nous annonce la purification des péchés. Sagesse divine manifestée qui annonce la venue de celui qui est sagesse. Enfin, par la venue du Fils sur la terre, manifestant qui il est, Hébreux nous rappelle, je le lisais il y a quelque temps, après avoir parlé de différentes manières, dans les derniers temps, Dieu a parlé par le Fils, il a fait lui-même la purification des péchés. J'en arrive ainsi à la sagesse de l'incarnation. La vie terrestre de Jésus manifeste sagesse et intelligence, en particulier dans son dialogue avec les hommes. La sagesse de Jésus, Fils de Dieu, met son intelligence au service du royaume qu'il est venu annoncer et manifester. Et je voudrais vous donner quelques exemples. Quand on regarde la guérison de l'homme à la main sèche, dans Marc 3, la sagesse de Jésus-Christ, les paroles qu'il va prononcer, vont dévoiler les cœurs et renvoie l'homme à lui-même sans le condamner. Il renvoie les pharisiens à leurs propos et à leurs véritables pensées. C'est ça la sagesse. En cela, Jésus est sagesse. C'est-à-dire que la parole qui sort de sa bouche, elle est puissante, elle n'est pas accusatrice, elle est finalement remplie d'amour, mais elle va dévoiler le cœur. Et vis-à-vis de ces pharisiens qui condamnent, parce que ce n'est pas dans l'ordre des choses que de guérir ce jour-là. Regarde, la parole de Jésus leur maintient ouverte la porte à la repentance et à l'accueil de la vérité. Ils savent la vérité, on le verra un peu plus loin, mais ils ne veulent pas la reconnaître. On voit encore la sagesse extraordinaire et je crois que le Seigneur peut nous donner dans nos vies, dans les situations que nous rencontrons face à des situations dans le monde, que ce soit dans le travail, dans des situations même au sein de l'Église. Regardez la sagesse qu'il va y avoir dans la parole de Jésus quand il est question de à qui payer l'impôt. On va les lire ce passage. C'est des exemples très, très concrets. Je ne sais pas, vous, mais souvent, Seigneur, je dis, donne-moi, Seigneur, dans les situations qui se présentent, qui ne s'annoncent pas, ou des fois personnes vont venir avec des choses tordues dans leur cœur. Donne-moi, Seigneur, des paroles avec ta sagesse pour savoir répondre à chacun comme il convient. Marc 12, versets 13 à 17. Marc 12, versets 13 à 17. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Il y a bien une intention de piéger. Il y a quelque chose de mauvais qui est né dans le cœur et qui va amener à poser une question tordue. Et il vint lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai. » Vous vous rendez compte ? « Nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Vous comprenez pourquoi Jésus va dire à un moment, faites ce que vous disent les pharisiens, mais faites pas ce qu'ils font. Les paroles qui sont dites là sont la vérité. Mais le cœur. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ? Devons-nous payer ou ne pas payer ? Ah, comme j'aime ces questions-là. Qu'est-ce que je dois faire là ? Je dois faire ça ou je dois faire ça ? Ah, peut-être une troisième voie, mon garçon. J'entends des questions comme ça, j'y réponds quasiment jamais. Je n'ai pas dit que le cœur de celui qui me la pose est aussi tordu que celui des pharisiens. Mais en fin de compte, quand on pose une question comme ça, c'est qu'on a déjà décidé de ce qu'on voulait faire un peu. Or, le Seigneur nous ramène, vous voyez, par cette réponse. Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous ? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils furent à son égard dans l'étonnement. Il n'a pas fait un discours de 2 heures. Il a positionné chacun. Il savait, et je crois que ça, certains ont demandé le discernement, je crois que c'est Catherine qui a prié pour ça. Dieu nous donne le discernement. Pas pour ruser et aller manipuler l'autre. Mais vous voyez ce qu'il fait. Il y a l'amour là. Il va les faire avancer, s'ils veulent. Il va les confondre dans leur hypocrisie qu'il a bien vue et qu'ils savent, pétard. Ils savent cette hypocrisie. Et il renvoie. Rendez à César ce qu'il y a à César. Il ne dit pas méprisez le monde, révoltez-vous contre César. Non. Mais rendez à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Dans Matthieu 21, versets 23 et suivants, je vais lire le passage parce que tout le monde ne l'a pas tout à fait en tête. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit « Je vous adresserai aussi une question et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ?» Mais ils raisonnèrent entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? » Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule. Car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons. » Et il leur dit à son tour, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Quelle sagesse qui vient d'en haut. Ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons pas. » Ils savent. Et Jésus leur dit, les dévoile dans leur réponse. C'est comme s'ils corrigeaient en direct leur réponse. En fait, ils ont répondu, « On ne veut pas te répondre. » Eh bien, lui répond, je ne vous répondrai pas non plus. Et la vérité est amenée. Il faut bien voir dans ces choses-là, non pas un art de la rhétorique d'être plus malin que l'autre, parce que le Seigneur veut à chaque fois ouvrir et amener à la vérité. Sois vrai. Sois vrai. Tu en es là. Il y a une amertume. Eh bien, écoute, on la met à la lumière. Et le Seigneur, il est prêt, toujours prêt à accueillir. Devant le Sanhédrin, et je m'arrêterai là pour les exemples, mais je ne peux pas le taire. Dans Marc 14, au verset 55, Jésus est devant le Sanhédrin, et puis ils font venir des faux témoins, ils essayent de l'accuser, puis ça ne marche pas. Jésus se tait, il laisse s'avancer ceux qui sont pleins d'accusations dans leur cœur, et ce qui va aboutir à la question du souverain sacrificateur lui-même. Il voit que les manigances qu'ils ont essayé de faire n'aboutissent pas comme ils veulent. Alors, vous voyez, c'est extraordinaire. Le souverain sacrificateur va lui poser cette question, dont en fait il connaît la réponse. Poser la question, c'est connaître la réponse. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ? C'est finalement une confession. Mais il ne lâche pas, il n'abandonne pas. C'est une confession, il sait qu'il a devant lui le Christ, le Fils du Dieu béni. Mais il refuse de le reconnaître comme tel. Parce qu'il va devoir renoncer à ses prérogatives, à ce qu'il a cru, aux mensonges doctrinaux dans lesquels il s'est enferré au fil des années. Dieu ne lui reproche pas. Il a tendu des mains sans cesse pour amener. Et ça me fait penser, vous voyez, moi j'avais du mal avec un verset, c'est dans Romains 1, mais j'ai compris au fil des années que vraiment, il s'applique. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Quand on sait la vérité et qu'on détourne, et qu'on retarde le moment de dire « oui, c'est comme ça ». Seigneur, garde-nous de résister. Jésus offre encore l'occasion de s'effondrer devant la majesté du Fils de Dieu. Il ajoute, pharisien, « je le suis ». Oui, tu viens de confesser, « je le suis ». Et vous verrez la puissance de Dieu, de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées. Je voudrais simplement qu'on comprenne que est-ce que cela n'arrive pas dans nos cœurs ? Quelque chose, on sait. Et puis, il y a une bagarre. À un moment, il faut capituler devant Christ, devant le Seigneur, qui a fait sagesse. Il sait tout. Il sait tous nos méandres. Je voudrais continuer un autre angle. Vous savez, la sagesse, on pourrait en parler. Pendant des semaines et des semaines, je voudrais regarder un autre aspect. Mais qu'on a déjà vu un peu là, c'est sagesse d'en haut, sagesse d'en bas. Dans Jacques, au verset 3, Jacques, chapitre 3, verset 13 à 18, ça va dans la suite de tout ça. Jacques, chapitre 3, verset 13 à 18, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Deux sagesses, deux fruits différents. D'un côté, le zèle amer, l'esprit de dispute. La sagesse d'en haut, pure, pacifique, modérée, conciliante. Nous avons un parallèle vraiment avec les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Et ce n'est pas un hasard. Si ce texte de Jacques vient après une mise au point sur l'usage de la parole, ce n'est pas mon sujet ce matin, mais il me semble qu'il y a là un point à souligner. Proverbe nous rappelle que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est pour ça que ceux qui sont amenés à porter la parole de Dieu doivent être attentifs particulièrement. Vous pouvez prier pour eux. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Je voudrais faire une petite parenthèse très actuelle. Je suis interpellé quand même, y compris parfois dans l'Église, sur tout ce qui se passe, qui s'échange, qui machin. Je suis un peu effaré sur cette histoire des SMS. Alors, j'ai été prendre quelques renseignements. Savez-vous qu'aujourd'hui, chaque année, il s'échange dans le monde 6 000 milliards de SMS? Savez-vous qu'il y a aujourd'hui 1 milliard 400 000 personnes qui sont abonnées à Facebook? Savez-vous qu'il y a 500 millions d'abonnés à Twitter parce que ça vient de démarrer? Savez-vous qu'il y a 9,2 milliards de téléphones portables connectés à Internet? Il y a 7 milliards d'habitants sur la planète. Vous voulez que je vous dise? Le prince de la puissance de l'air opère maintenant dans les fils de la rébellion. Et nous étions de cela. Mais maintenant, détournons-nous de ces choses. Dans le deuxième ciel, il en tourne des choses. Mais c'est le deuxième ciel. Heureusement que je sais et que je crois que mon Rédempteur est vivant, que je le verrai au dernier jour, et qu'il règne, lui, dans le troisième ciel, et qu'il a autorité sur toute puissance, sur toute domination. Dans les cieux, tout esprit méchant dans le deuxième ciel qui opère. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Jésus a toujours rencontré les personnes, leur a parlé. Il a vu leur visage. À travers le visage, il a vu le cœur qui pouvait tourmenter, qui pouvait en révolte. Il a pu avoir apporté une parole de sagesse. Quand on écrit un courrier à la plume d'oie poire au stylo bille. Je suis pas contre le progrès. Il faut prendre du temps pour écrire. Il faut aller poster la lettre. Ça donne le temps de réfléchir. Et celui qui lit la lettre, avant de faire sa réponse, il va lire, il peut relire tranquillement. Prenons garde, frères et sœurs. Prenons garde, frères et sœurs, de prendre réponse tac au tac, tac au tac. Attention, ça s'enflamme vite. Parce que les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie, l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Le cœur du sage est à droite et le cœur de l'insensé. Le cœur du sage est à sa droite, le cœur de l'insensé à sa gauche. Les paroles de la bouche d'un sage, je vous le cite, c'est dans l'Ecclésiaste, sont pleines de grâce, mais l'élève de l'insensé cause sa perte. Attention aux paroles, aux textes, aux machins. Avons-nous vérifié les choses? Parce que ça va blesser, ça peut abîmer, mais soi aussi, l'émetteur aussi, n'oubliez pas, l'émetteur va être touché. J'avais entendu dans une prédication quelque chose qui m'avait donné une bonne image pour ce qui est de la calomnie ou de la médisance. Vous savez, c'est un oreiller de plumes qu'on met sur le pic d'un clocher, là. Les plumes, elles s'en vont. On peut demander pardon, mais on ne rattrapera jamais toutes les plumes. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, dans Ecclésiaste 10 au verset 12, mais l'élève de l'insensé cause sa perte. Le commencement des paroles de sa bouche de l'insensé est folie, et la fin de son discours est une méchante folie. L'insensé multiplie les paroles, l'homme ne sait point ce qui arrivera, ce qui lui dira, et qui lui dira ce qui sera après lui. Psaume 141, verset 3, Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Parce que celui qui garde, qui veille sur sa bouche, garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. La folie qui guette souvent celui qui parle trop, souvent de lui-même. Nous avons l'exemple de Nebuchadnezzar. Je ne vais pas lire tous les textes. Nebuchadnezzar avait reçu une vision, vous savez, la vision de la statue. Qu'une vision prophétique que lui explique Daniel, une vision extrêmement importante, puisqu'elle nous parle même de la fin des temps. Bon, Nebuchadnezzar, impressionné par la précision de l'interprétation et la justesse, il a une conviction que l'interprétation de Daniel est la bonne, dit désormais, je sais que votre Dieu est le vrai Dieu, etc. Néanmoins, il va quand même élever une statue à sa gloire, comme King Jong. Et il va demander que tout le monde s'incline. Vous savez que Daniel et ses amis ne s'inclineront pas. Et Nebuchadnezzar, qui pourtant était touché, à un moment, ça va le reprendre. Et il va prononcer quelques paroles. Mais dans le fond, ce magnifique empire, n'est-ce pas moi qui ai bâti ces choses? Et il avait eu une prophétie pourtant qui lui dirait, le jour où tu feras ça, tu brouteras l'herbe. Je vais vous dire, c'est une expression des fois qu'on emprunt, il est parti brouter l'herbe. Eh bien, Nebuchadnezzar, oui, il a connu ça. Il a été saisi, finalement, d'une folie. Il a été abattu par ces paroles insensées. Insensées, lui qui avait vu la gloire de Dieu. Dieu l'a relevé, mais n'empêche qu'il a brouté pendant quelques mois ou quelques années. Je dis ça, c'est concret. Moi, je vais vous le dire. Si je vous le dis, c'est parce qu'il y a des choses qui sont passées. Le Seigneur m'a montré. Faire vraiment attention. Vraiment attention, il nous relève, mais quand on n'aura reconnu pas avant, on peut l'appuyer longtemps. Pour conclure, ce premier aspect qui avait pour but de décrire le caractère, un des caractères, un des traits de la personnalité de Jésus-Christ, cette sagesse dont nous avons tellement besoin. Je voudrais qu'on lise dans Proverbe 2, les versets 1 à 9. Ça va nous faire du bien. Proverbe 2, versets 1 à 9. « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec moi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. » Vous voyez, ils sont toujours liés. Hein. « Oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. » Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. Et si on en manque, il est dit qu'on peut la demander, et il la donne à tous, sans compter et sans reproche. Si on a été fou, demandons-lui la sagesse. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie des fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Je souligne que si nous demandons cette sagesse à Dieu, il va nous la donner, la sienne et l'intelligence avec. Et nous comprendrons la justice et l'équité. Et nous avons besoin de ça. Parce que combien d'occasions de révolte dans nos vies qui nous rééloignent de Dieu. Parce que nous disons, c'est pas juste, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et le Seigneur nous montrera, nous révélera tous ses plans. Mais pour cela, il faut, j'allais dire, qu'on se calme. Et qu'on reçoive de lui, qu'on écoute. Proverbe 3, verset 5. Quel complément, si j'ose dire, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, en celui qui a été fait pour toi, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Frères et sœurs, la parole de Dieu n'est pas démodée, elle n'est pas liée. Nous continuerons à annoncer Jésus-Christ qui a été fait pour nous. Jésus-Christ crucifié. Je crois que si Paul a été amené à exhorter si vigoureusement les Corinthiens, qui avaient tant reçu de charisme, mais avaient oublié d'où ils venaient, cette exhortation me semble adaptée à nous aussi aujourd'hui. Le dernier texte, ce sera 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5. Je m'arrêterai là. Je vous l'avais... Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Je crois que nous avons besoin de nous dire ça, et c'est vraiment un encouragement à ne pas nous laisser embarquer par l'abondance, le flot de connaissances, mais qui amène beaucoup de gens à apprendre toujours et à ne savoir jamais, finalement. Mais écoutons celui qui est notre Sauveur, notre Seigneur, que nous avons proclamé, qui nous aime, parce que tout ce qu'il fait est motivé par cela, son amour. Il veut nous restaurer, nous remettre. Écoutons-le, je vous en supplie. Nous prions. Seigneur, Tu as été fait pour nous sagesse, Seigneur. Seigneur, tu nous as fait la grâce en nous faisant parvenir ta parole écrite, Seigneur, et en nous accordant, Seigneur, ton Saint-Esprit de saisir les réalités célestes et éternelles. Seigneur, comme rappelait mon frère, Seigneur, tu enlèves alors toute peur, toute crainte de la mort, parce que nous savons en qui nous avons cru, nous savons où nous allons, Seigneur, nous savons que nous te verrons au dernier jour. Père, nous ne voulons pas perdre notre temps dans des choses vaines, mais nous voulons marcher à ta suite, humblement, mais Seigneur, avec assurance. Seigneur, viens ouvrir nos oreilles et Seigneur, viens nous apprendre à prendre du temps pour t'écouter, pour écouter ce que tu as à dire, pour t'écouter avant de répondre, Seigneur, dans beaucoup de situations. Je te loue et je te bénis, Père. Amen.